Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bienvenue dans cette édition du 23 novembre 2020. Nathalie Barge à la présentation. Voici les titres. Ahmad Ahmad, président de la Confédération africaine de football, a été suspendu pour 5 ans. Les Burkinabés attendent les résultats de la présidentielle de dimanche, un scrutin qui n'a pas pu se tenir dans les régions instables. Le gouvernement guinéen interdit les manifestations. L'opposition dénonce une instrumentalisation de la pandémie. Le président élu Joe Biden a dévoilé les premiers noms de son futur gouvernement avec Anthony Blinken à la diplomatie. Après le journal, ce sera l'actualité économique et les sports. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine, Ahmad Ahmad, lui infligeant 200 000 francs suisses d'amende pour détournement de fonds. Les détails avec Yacouba Ouedraogo.
La justice interne de la FIFA, dont Ahmad Ahmad est vice-président, estime que le patron de la CAF avait manqué à son devoir de loyauté, accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction de président de la CAF. L'enquête de la commission d'éthique a porté sur la gouvernance de la CAF dans l'organisation et le financement d'un pèlerinage à la Mecque, ses acquaintances avec l'entreprise d'équipement sportif Tactical Steel et d'autres activités selon la FIFA. Le malgache de 60 ans avait été placé en garde à vue à Paris pour des soupçons de corruption en juin 2019. Dans ce même mois, Ahmad a demandé l'aide de la FIFA pour superviser son organisation fragilisée par des problèmes de gouvernance. À cet effet, la numéro 2 de la FIFA, Fatma Samoura, a effectué un mandat de 6 mois visant à accélérer le processus de réforme au sein de l'instance, mais son mandat n'a pas été renouvelé début février 2020. Ahmad Ahmad pourra faire appel de cette suspension auprès du tribunal arbitral du sport. Il a été élu à la tête de la CAF en 2017 et a annoncé fin octobre qu'il briguerait en mars 2021 un deuxième mandat.
Au Burkina Faso, la commission électorale égrène les résultats de l'élection présidentielle de dimanche. Le scrutin s'est déroulé sans incident majeur, même si des centaines de milliers d'électeurs n'ont pas pu voter pour des raisons sécuritaires. Le point avec Bagassi Koura.
La commission électorale nationale indépendante a commencé à donner les résultats cet après-midi. Élu en 2015, le président Rochmark Christian Kabore brigue un second mandat face à 12 adversaires, dont Zéphirin Diabré, chef de file de l'opposition, et Eddy Kombouégo, candidat du parti de l'ex-président Blaise Compaoré. Dimanche soir, le président de la CENI, Newton Ahmed Barré, avait reconnu que autour de 300 à 350 000 personnes sur les 6,5 millions d'électeurs n'ont pas pu voter en raison des menaces sécuritaires, notamment dans l'Est et dans le Nord. Des individus ont interdit aux populations de prendre part au vote, avait affirmé M. Barry. Selon lui, ils ont dit que celui qui plonge son doigt dans l'encre indélébile peut dire adieu à son doigt. Début novembre, la Cour constitutionnelle avait constaté que l'élection ne pouvait se tenir sur 17,7% du territoire, faute d'une présence administrative et sécuritaire de l'État. Cela ne devrait toutefois pas empêcher la validation des résultats, l'Assemblée nationale ayant adopté en août une modification du code électoral afin que les élections soient valables, même si elles ne peuvent pas avoir lieu sur l'ensemble du territoire. Les attaques des groupes armés ont fait au moins 1200 morts et chassé de leur foyer 1 million de personnes. Considérés comme les outsiders les plus sérieux, Diabré Kombouégo ainsi que 4 autres candidats ont fait monter la pression samedi en affirmant qu'une fraude massive était en préparation.
Au lendemain de la présidentielle au Burkina Faso, l'opposition a demandé à ses commissaires de quitter la CENI, indiqué le porte-parole de l'UPC, Moussa Zerbo. « Nous ne nous reconnaissons pas dans ces élections », a-t-il déclaré. Cette annonce faite au siège du CFOP, Alliance de l'opposition, intervient après la déclaration commune des partis signataires de l'accord politique qui ont dénoncé des cas de fraude massive. Le gouvernement guinéen a interdit les grandes manifestations dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre en invoquant le coronavirus. L'opposition dénonce une instrumentalisation de la pandémie à des fins politiques. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le gouvernement rappelle aux partis politiques et mouvements alliés de la mouvance présidentielle ainsi qu'à toutes les entités politiques et sociales la suspension pour raisons sanitaires des manifestations de masse sur toute l'étendue du territoire national, a dit le porte-parole du gouvernement Aboubacar Sylla sur la télévision nationale. Le porte-parole du gouvernement a parlé d'une mesure exceptionnelle justifiée par l'état d'urgence instauré officiellement pour combattre la pandémie. Cette mesure provisoire sera levée quand des progrès significatifs auront été constatés contre le coronavirus, a-t-il dit. L'Union des forces démocratiques de Guinée, principal parti d'opposition, avait appelé à manifester mercredi contre la récente réélection d'Alpha Condé et l'arrestation de plusieurs de ses leaders. Nous condamnons fermement l'instrumentalisation et la politisation du Covid-19 pour protéger le hold-up électoral et les arrestations arbitraires, a dit un de ses responsables, Joachim Baba Milimono, dans une déclaration. La candidature d'Alpha Condé en troisième mandat a donné lieu à des mois de manifestations durement réprimées qui ont fait des dizaines de morts depuis octobre 2019.
Décès la nuit dernière à Nouakchott de l'ancien chef de l'État mauritanien Sidi Oul Cheikh Abdallahi, premier président démocratiquement élu en 2007, renversé par un putsch 15 mois après. Monsieur Abdallahi est mort à l'âge de 82 ans des suites d'un malaise cardiaque. La présidence mauritanienne a annoncé un deuil national de 3 jours et des obsèques. L'ancien président devait être inhumé ce lundi dans son village natal de Lemden. Al-Qaïda au Maghreb islamique a désigné son nouveau chef, une figure du djihad algérien connue pour ses interventions publiques. Plusieurs mois après la mort d'Abdelmalek Droukdal, tué en juin par les forces armées françaises, Hakmi a annoncé la nomination d'Abu Ubaïda Youssef Al-Nabi à la tête de son conseil des notables qui tient lieu de comité directeur du groupe. En République démocratique du Congo, l'ex-chef de guerre Ntabo Ntaberi a été condamné à la prison à perpétuité pour crimes de guerre dans l'est du pays dans les années 2010. Ntaberi alias Cheka a été condamné pour meurtre, viol, esclavage sexuel et enrôlement d'enfants de moins de 15 ans, a indiqué le tribunal militaire de Goma. La représentante des Nations Unies en RDC, Leila Zerougui, s'est félicitée de cette décision. Plus de 40 000 réfugiés éthiopiens sont arrivés au Soudan depuis le 10 novembre, fuyant l'offensive des forces gouvernementales contre la région dissidente du Tigré. L'annonce a été faite par le HCR ce lundi. Les délégués libyens chargés de mettre sur pied un exécutif unifié devaient reprendre leur discussion en virtuel ce lundi après une première rencontre à Tunis qui a permis un accord sur des élections le 24 décembre 2021. Les délégués doivent désigner un chef de gouvernement de transition et 3 membres d'un conseil présidentiel constituant l'exécutif pour prendre le relais des institutions rivales.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le président élu Joe Biden a annoncé les premiers membres de son futur cabinet, parmi lesquels Anthony Blinken pour diriger le département d'État. Mohamed Oumfa pour les détails.
Anthony Blinken, qui fut adjoint au secrétariat d'État de 2015 à 2017, prendra la tête du département d'État. À 58 ans, ce fervent partisan du multilatéralisme devrait notamment s'attaquer au dossier sur le nucléaire iranien. L'ancien secrétaire d'État John Kerry, 76 ans, s'il est confirmé par le Sénat, reviendra au gouvernement comme émissaire spécial du président américain sur le climat. Alejandro Mayorkas, né il y a 60 ans à La Havane, à Cuba, sera le premier hispanique à diriger le ministère de la Sécurité intérieure qui supervise les questions d'immigration. L'Africaine-américaine Linda Thomas-Greenfield, une diplomate chevronnée de 68 ans, qui fut secrétaire d'État adjointe pour l'Afrique, deviendra, elle, ambassadrice à l'ONU. Joe Biden a également nommé un autre proche collaborateur, Jake Sullivan, 43 ans, comme son conseiller à la sécurité nationale. Avril Haines, 51 ans, est choisie pour devenir directrice du renseignement national, un poste jusqu'ici occupée par des hommes.
48 candidats vaccins contre le coronavirus sont en essai clinique sur l'humain, dont 11 en phase 3. Les États-Unis espèrent commencer leur campagne de vaccination avant mi-décembre, après l'approbation des autorités sanitaires, a déclaré Moncef Slaoui, un haut responsable de l'opération gouvernementale pour les vaccins. Toronto, au Canada, est soumise à un confinement à partir de ce lundi face à la flambée de la pandémie. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée par John Linden.
La Côte d'Ivoire et le Ghana font front commun depuis 2019 face aux industriels. Ils ont fait monter le cours de la fève de cacao alors même que la demande est en berne à cause de la pandémie de COVID-19. Sur le marché de New York, la tonne de cacao pour livraison en décembre a grimpé de plus de 25% depuis vendredi dernier pour culminer à 2 915 $. Au Togo, Togocell et Move, les deux opérateurs de téléphonie mobile ont annoncé les 2 et 21 novembre des réaménagements de leur grille tarifaire. Ce réaménagement, selon Financial Afrique, intervient après une mise en demeure formelle émanant de l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Move appartient au groupe Maroc Telecom, alors que Togocell est une filiale du groupe Togocom. La Banque centrale de Chine sera l'une des toutes premières au monde à émettre sa propre crypto-monnaie qui va s'appeler le renminbi. Le yuan numérique a pour but de positionner l'empire du milieu dans la guerre contre le dollar pour le contrôle de l'argent, de l'Internet et, au-delà, pour être la monnaie des transactions mondiales. Le projet de yuan numérique devrait être opérationnel avant les Jeux olympiques d'hiver 2022.
Présent les sports présentés par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous, c'est la grosse info du jour en sport et vous l'avez suivi dans le journal. La FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la CAF, Ahmad Ahmad. Vous pourrez suivre dans la partie magazine de cette édition une analyse de notre consultant en sport, Amin Birouk, depuis Casablanca. Dans le reste de l'actualité sportive, le COVID-19 continue de frapper les joueurs de l'équipe nationale d'Algérie. Après leur retour de la sélection, Aïssa Mandi a été contrôlé positif après Ben Zebaini et Brahimi. Son club, le Betis Séville, sera opposé ce soir à l'Athletic Bilbao en clôture de la 10e journée du championnat espagnol. Tout en précisant que les autres joueurs ont été testés négatifs, le club espagnol a souligné que l'Algérien ne présente aucun signe. Avant Mandi, Rami Ben Zebaini a été testé positif à son retour dans son club allemand, le Borussia Mönchengladbach, tout comme Yassine Brahimi. Ils sont tous retournés dans leurs clubs respectifs après la double confrontation contre le Zimbabwe en éliminatoire de la CAN 2021 reportée à 2022. François Cicolini n'est plus le coach de l'USM Alger. Nommé au mois d'août, l'entraîneur français a perdu son premier match officiel à la faveur de la défaite en Supercoupe d'Algérie face au CR Belouizdad 1-2. Frustré par cette défaite, le technicien a zappé le protocole d'après-match en refusant de monter en tribune d'honneur pour recevoir une médaille des mains du premier ministre algérien, d'où son limogeage. Rappelons que pour la direction de l'USM Alger, le respect des hautes autorités du pays est une ligne rouge à ne pas franchir, a expliqué l'USM Alger dans un communiqué. D'après le président du conseil d'administration du club, Anchour Djelloul, si Cicolini a fauté, il doit payer. Nous avons pris la décision de le limoger. Il était déçu par la défaite, mais ce n'est nullement une raison pour ne pas respecter la cérémonie protocolaire. Il a été prié de monter à la tribune pour recevoir sa médaille, mais il a campé sur sa position, a déploré le dirigeant. L'adjoint Cheikh Bouziane va assurer l'intérim. Cette triste nouvelle pour finir, l'ancien international sud-africain Anele Ngonka est décédé ce lundi dans un accident de voiture. Il avait quitté Johannesburg en direction de Durban pour rejoindre sa nouvelle équipe d'AmaZulu, où il a été prêté par Mamelodi Sundowns, avec qui il a été 3 fois champion d'Afrique du Sud ces 3 dernières années. Sélectionné à 53 reprises entre 2009 et 2016, le latéral droit a participé à la Coupe du Monde 2010 à domicile. Il a aussi joué les CAN 2013 et 2015 avec les Bafana Bafana. En club, Ngonka a fait l'essentiel de sa carrière avec Genk en Belgique entre 2007 et 2016. Il est aussi passé par Troyes en France en 2015-2016.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Nathalie Barge pour vous présenter cette édition. Maintenant, les dossiers du jour. La commission d'éthique de la FIFA a suspendu pour 5 ans le président de la Confédération africaine de football, Ahmad Ahmad, lui infligeant une amende de 185 000 euros pour détournement de fonds. La justice interne de la FIFA, dont Ahmad Ahmad est vice-président, estime que le patron de la CAF a accordé des cadeaux et d'autres avantages, géré des fonds de manière inappropriée et abusé de sa fonction. Yacouba Ouedraogo a joint à Casablanca notre consultant en sport, Amine Birouk.
On lui reproche 2 faits qui sont avérés. L'affaire Tactical Steel concernant les équipements sportifs, il aurait touché une grosse plus-value via des sociétés écrans ou des sociétés d'amis. Et puis, tous les voyages à la Omra, à la Mecque, qui ont été faits vers les, en direction des présidents de fédérations de confession musulmane. Je suppose aussi que c'est après l'audit de Fatma Samoura qu'il a permis de lever le voile sur beaucoup de pratiques qui existaient dans le football africain. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y a peut-être aussi le contre-coup politique, parce qu'il faut rappeler que Infantino est parti mécontent de la dernière réunion qui avait été organisée à Rabat, où le mandat de Fatma Samoura n'avait pas été prolongé.
On se rappelle de cette tournée d'Infantino en Afrique où il avait proposé pratiquement une Coupe d'Afrique des Nations, la CAN, donc tous les 4 ans. Ahmad n'était pas d'accord. On se rappelle aussi de cette fameuse Ligue des Champions à 20 clubs fermés en Afrique. Est-ce que c'est véritablement des questions de corruption plutôt que des questions de vision qui limitent la FIFA et la CAF?
Ce sont les deux. Il n'y a pas eu de fumée sans feu dans l'affaire Tactical Steel. Ahmed a été interrogé par la police française. Il a passé de nombreuses heures en garde à vue avant d'être relaxé. Je me rappelle évidemment de son passage au Maroc où il avait évoqué la CAN tous les 4 ans. Je pense que c'est une chimère du football du Nord par rapport à notre continent. Mais est-ce que ce ne serait pas la solution la plus sage? Parce qu'aujourd'hui, trop de compétition tue la compétition. On a des CAN tous les 2 ans, des CHAN qui sont là. Vous avez la Champions League chaque année. Et puis, ce sont des produits qui ne sont pas très rentables.
L'Assemblée générale élective à la CAF, c'est pour mars 2021. Ahmad s'est déclaré candidat. Pourquoi c'est maintenant que cette suspension-là tombe?
Je dirais qu'il y a une guéguerre et une fracture entre francophones et anglophones. Aujourd'hui, le camp anglophone va marcher en rang serré derrière le candidat sud-africain qui bénéficie de la bénédiction de la FIFA, mais qui ne bénéficie pas de l'appui de la majorité du comité exécutif de la CAF, dont 2 des membres sont des candidats déclarés. Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise depuis 2009. Ahmed Yahia, qui est un jeune candidat dynamique, il a 44 ans, il est derrière le boom du football mauritanien. Puis Jacques Anouma, qui est un vieux routier du football africain. Est-ce que les francophones ont intérêt à avoir de multiples candidatures et de diviser leur voix? Je dirais non. Est-ce qu'il est là pour une candidature de témoignage? Est-ce qu'il est sûr de faire le plein de voix? Ou est-ce qu'il va chercher à prendre quelques voix francophones pour faciliter la candidature du représentant sud-africain? Ce sont des interrogations dont il faudra rapidement avoir des réponses. Le 12 janvier, c'est la date butoir pour la présentation des candidatures définitives. Et puis le 12 mars, il y a un scrutin.
On le sait, l'ère Issa Hayatou est révolue, dit-on, avec son lot de corruption et autres. Est-ce qu'on est en train de replonger?
J'avais l'espoir, j'avais l'intime espoir qu'on allait tourner la page Issa Hayatou avec de belles avancées, mais également de très gros défauts, et notamment une gestion autocratique. Seule l'histoire pourra permettre de juger les bonnes intentions d'Ahmed Ahmed. Mais j'ai toujours eu l'impression que c'était une candidature de transition entre l'ancienne CAF et la future CAF.
Notre consultant sportif Amine Birouk était joint à Casablanca, au Maroc.
Abdourahman Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la suspension du président de la CAF pour 5 ans. La FIFA accuse le malgache Ahmed Ahmad, élu à la tête du football africain en 2017, de détournement de fonds. Il s'agit d'un nouveau scandale financier touchant le football africain alors que la CAF doit élire son prochain président en mars 2021. Quel impact cette suspension aura-t-elle sur l'élection du prochain président de la CAF? Où en est la réforme de la CAF? Comment réduire ou éliminer la corruption dans le football? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com.
Au Bénin, le président Patrice Talon, lors d'une tournée à l'intérieur du pays, a promis de s'engager dans l'organisation d'une élection présidentielle inclusive en 2021. L'opposition dit attendre de voir, un an après le dialogue politique visant à aplanir les divergences qui n'a pas eu l'effet escompté. Un reportage de notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleuradandé.
Les élections présidentielles en 2021 seront-elles inclusives? Je vous promets, c'est un engagement que je prends, que l'élection présidentielle à venir verra la participation de tout le monde, a su Patrice Talon. Mais l'opposition et la société civile pensent que les élections législatives et municipales ont créé le champ pour les échéances électorales. Le dialogue politique national n'a pas vraiment joué le rôle qui lui revenait. Pour Maître Sadiku Alao, président de GEDES Afrique, le dialogue national politique a été une perte de temps.
Ceux qui ont parlé du dialogue ont effectivement atteint leur objectif, mais pour la nation, il n'y a pas eu de dialogue que tout le monde attend. Je parle non seulement, je parle aussi de la société civile et du monde social, du monde des travailleurs, parce que le dialogue que tout le monde attendait n'est pas un dialogue pour aboutir à la modification du cadre institutionnel. C'est un dialogue, mais tout le monde allait pas sur des bases nouvelles qui aiment tout le monde, non seulement pour la paix, aussi pour le social et pour le développement économique.
Si on s'en tient au dernier développement de l'actualité sur le parrainage, l'opposition a de fortes chances de décrocher des parrains pour ses candidats à la présidentielle de 2021. À en croire les différents leaders de la mouvance, seuls en mesure de parrainer des candidats, le parrainage sera ouvert pour permettre une élection inclusive. L'opposition y voit un piège, mais le député Gérard Benouchi les qualifie de turbulence d'un parcours normal.
Nous sommes fiers de ce qui se passe et nous pensons que d'ici quelques années, nous aussi, notre démocratie sera stabilisé. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est les turbulences d'un parcours normal. Moi-même, je suis convaincu que pour la crédibilité des élections qui viennent, il faut qu'il y ait pluralité de candidatures.
L'opposition réclame le retour des exilés politiques et la libération des opposants emprisonnés. De nombreux observateurs dénoncent régulièrement un tournant autoritaire du président Talon depuis son élection en avril 2016. Ils pointent du doigt plusieurs mesures interdisant ou restreignant le droit de grève et de rassemblement public. Pour Dieudonné Lokosou, ancien syndicaliste, le dialogue national passé a été un rassemblement entre amis.
Lorsqu'on parle de dialogue national, il doit avoir toutes les composantes. Je n'ai pas remarqué la présence des syndicalistes, qui sont des maillons essentiels de la démocratie. Alors, si on a trié sur le volet des gens d'un même bord, des gens qui soutiennent de façon aveugle et tout ce qui se passe, moi, je ne peux pas appeler ça dialogue national.
Patrice Talon, au cours de sa tournée nationale, a été souvent interpellé sur ce que sont devenues les élections au Bénin. Une guerre sans merci que se livrent les acteurs politiques. Mais il est convaincu que si chacune des forces politiques joue pleinement sa partition, les élections au Bénin seront de nouveau des moments de fête et nous aurons ainsi gagné le pari des réformes politiques, a-t-il déclaré. De Cotonou, Ginette Fleuradandé pour VOA Afrique.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président américain Donald Trump conteste toujours les résultats des élections du 3 novembre, si bien qu'il y a eu peu de communication entre son administration et la nouvelle équipe Biden, y compris sur la réponse à la pandémie de Covid-19. Le reportage de Michel Keane avec un récit de Lionel Gaïma.
Le président élu des États-Unis, Joe Biden, doit prêter serment le 20 janvier et devrait cette semaine annoncer certains des futurs membres du cabinet. Mais la frustration monte parmi les démocrates face au manque de communication avec la Maison-Blanche. Le président Donald Trump conteste toujours les résultats des élections. Un dossier important est quelle sera la réponse à la pandémie de Covid-19. Robert Klein, futur secrétaire général de la Maison-Blanche.
Notre transition n'a pas accès aux responsables de l'agence pour nous aider à élaborer nos plans. Et l'accent est mis sur ce plan de déploiement de vaccins qui sera essentiel dans les premiers jours d'une présidence Biden. Nous n'avons pas accès à cela.
L'élaboration d'un plan national de distribution des vaccins est désormais une priorité absolue. Les firmes pharmaceutiques Moderna et Pfizer ont apporté la semaine dernière que les essais cliniques de leurs vaccins contre le coronavirus ont montré que ceux-ci étaient efficaces à plus de 90%. Pfizer a demandé une autorisation d'urgence aux États-Unis et Moderna a fait savoir qu'il le ferait également. L'équipe Trump est prête à expédier des vaccins dans les 24 heures suivant l'approbation, a déclaré le docteur Moncef Slaoui, conseiller scientifique du programme de développement de vaccins au sein de l'administration Trump. Il a aussi ajouté qu'il craignait que la désinformation ne pousse certains Américains à hésiter à se faire vacciner. Docteur Moncef Slaoui, conseiller du président Trump.
Je suis très, très préoccupé par l'hésitation actuelle et je pense que c'est très malheureux car cela a été exacerbé par le contexte politique dans lequel nous avons travaillé dur avec les entreprises et les milliers de personnes impliquées dans la fabrication des vaccins pour les rendre disponibles.
Les États-Unis ont enregistré plus de 12 millions de cas de COVID-19 et 256 000 morts, selon le dernier chiffre de l'université Johns Hopkins. Il reste à voir comment le drame politique en cours va effacer la vaccination.
C'est la fin de cette édition. Un grand merci à toute l'équipe de production pour la technique. À la présentation, c'était Nathalie Barge. Merci beaucoup d'avoir suivi Le Monde Aujourd'hui. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. À très bientôt et bon courage.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Les États-Unis sont la première nation fondée sur un engagement à protéger les droits universels pour tous les êtres humains. Le plus fondamental de ces droits, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans un discours en Indonésie, est la liberté de conscience, y compris la liberté religieuse. Le respect de l'Amérique pour les droits donnés par Dieu est la caractéristique déterminante de notre esprit national, a déclaré le secrétaire Pompeo. C'est pourquoi l'Amérique se tient sur la plus haute marche parmi les démocraties occidentales en soutenant l'indépendance de l'Indonésie par rapport à la domination coloniale et a été une fervente partisane de la transition de l'Indonésie vers la démocratie au cours de ces deux dernières décennies. Le fait que notre peuple embrasse la liberté et respecte une tradition de tolérance est très spécial. Le désir de coexistence pacifique entre gens de toutes les confessions religieuses est ancré dans la dynamique démocratie de l'Indonésie. Cela se reflète dans sa constitution qui dit clairement que toute personne sera libre de pratiquer la religion de son choix. Il n'y a vraiment aucune raison que l'islam ne puisse pas coexister pacifiquement avec le christianisme ou le bouddhisme, a dit le secrétaire Pompeo. L'esprit national de tolérance et de pluralisme de l'Indonésie doit être entretenu maintenant plus que jamais, a dit le secrétaire d'État Pompeo. Les accusations de blasphème qui détruisent les vies sont courantes. La discrimination contre les religions non officielles fait de leurs adeptes des citoyens de seconde classe soumis à des abus et des privations. Le secrétaire d'État Pompeo a poursuivi en exhortant plus de leaders religieux à se prononcer au nom des gens de toutes les confessions religieuses partout où leurs droits sont violés. Nous voulons que plus de leaders religieux soient des témoins moraux. L'un de ces endroits est la Birmanie, où l'armée a violemment réprimé les Rohingyas et autres minorités. L'Indonésie a poussé l'assaillant à honorer ses idéaux humanitaires, mais le progrès au plan judiciaire reste au point mort, a dit le secrétaire Pompeo. Mais la plus grave menace sur l'avenir de la liberté religieuse, a averti le secrétaire d'État Pompeo, est la guerre que mène le Parti communiste chinois contre les gens de foi musulmans, bouddhistes, chrétiens, adeptes du Falun Gong et autres. Les droits inaliénables donnés par Dieu sont les droits innés de chaque peuple, a dit le secrétaire d'État Pompeo. C'est pourquoi les peuples libres et les nations libres doivent défendre ces droits.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington.